from the conference center at Temple Square.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des instituts de l'Université de Salt Lake City.
President Henry B. Eyring, First Counselor.
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera la session de la prêtrise de ce soir.
Mes frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 182e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Le président Thomas S. Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise, réunis dans de nombreux endroits, dans de nombreux pays du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise des instituts de l'Université de Salt Lake City, sous la direction de Hal W. Romrell, Craig Allen et Denis Nordfeld, avec Richard Elliott à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Guide-moi, ô mon Sauveur ». Ensuite, Elder Yon Wan Choi, des 70, fera la prière d'ouverture.
Over lies and pastures. Ô Père céleste, tandis que nous qui détenons ta sainte prêtrise, nous nous rassemblons, nous te remercions des nombreuses bénédictions que tu nous as données. Nous te remercions pour un prophète aimant, président Monson, et ses deux conseillers loyaux, ainsi que pour les frères du Collège des Douze. Nous te remercions pour leur grand exemple, pour leurs enseignements, et nous voulons les suivre. Père, nous te demandons tes bénédictions et ta direction sur chacun de nous ce soir, tandis que nous assistons à cette session de conférence, afin que nous puissions ouvrir nos yeux, nos oreilles, nos esprits et nos cœurs pour pouvoir même voir les mystères du royaume à travers la parole du Seigneur. Père, nous t'aimons et nous aimons Jésus-Christ et son expiation et son sacrifice et son exemple parfait. Nous voulons le suivre. Et nous te demandons ton esprit sur tous ceux qui prendront la parole ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us.
Le chœur va maintenant chanter en avant. Après ce cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Elder David à Bednar du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de l'évêque Richard C. Edgley, qui a été relevé cet après-midi de son appel de premier conseiller dans l'épiscopat président. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre Elder Adrian Ochoa, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens. Elder Bednar.
Carry on. Father's Mes très chers frères, je suis reconnaissant de pouvoir adorer Dieu avec le vaste groupe de détenteurs de la prêtrise que vous êtes. Je vous aime et je vous admire pour votre dignité et votre influence bénéfique à travers le monde. J'invite chacun d'entre vous à penser à la manière dont vous répondriez à la question suivante, posée aux membres de l'Église il y a de nombreuses années par le président David O'Mackay. Je cite, « Si à l'instant, chacun de vous devait énoncer en une seule phrase le trait le plus caractéristique de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, quelle serait votre réponse ?» Fin de citation. La réponse du président Mackay à sa propre question était l'autorité divine de la prêtrise. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours se différencie d'autres églises qui affirment que leur autorité découle de la succession historique, des Écritures ou de la formation théologique. Nous déclarons, et cela nous est propre, que l'autorité de la prêtrise a été conférée directement par des messagers célestes à Joseph Smith, le prophète, par l'imposition des mains. Mon discours traite de la prêtrise divine et des pouvoirs du ciel. Je prie avec ferveur pour que l'Esprit du Seigneur nous aide dans notre étude commune de ces importantes vérités. La prêtrise est l'autorité de Dieu déléguée aux hommes sur la terre pour agir en toute chose pour le salut de ses enfants. La prêtrise est le moyen par lequel le Seigneur agit à travers les hommes pour le salut des âmes. L'une des caractéristiques qui définissent l'Église de Jésus-Christ dans les temps anciens et aujourd'hui est son autorité. Il ne peut y avoir de véritable Église sans autorité divine. L'autorité de la prêtrise est donnée à des hommes ordinaires. Ce sont la dignité et la bonne volonté, et non l'expérience, l'expertise ou l'instruction, qui qualifient pour l'ordination à la prêtrise. La manière dont on obtient l'autorité de la prêtrise est décrite dans le 5e article de foi. Nous croyons que l'on doit être appelé de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité pour prêcher l'Évangile et en administrer les ordonnances. Ainsi, un garçon ou un homme reçoit l'autorité de la prêtrise et est ordonné à un office déterminé par quelqu'un qui détient déjà la prêtrise et y a été autorisé par un dirigeant détenant les clés de la prêtrise nécessaire. Il est attendu d'un détenteur de la prêtrise qu'il exerce cette autorité en accord avec la volonté et les objectifs saints de Dieu. Dans la prêtrise, rien n'est égoïste. La prêtrise est toujours utilisée pour servir, pour bénir et pour renforcer d'autres personnes. On reçoit la prêtrise supérieure par une alliance solennelle qui comprend l'obligation d'agir dans l'autorité et l'office que l'on a reçu. En tant que détenteurs de la sainte autorité de Dieu, nous sommes là pour agir et non pour subir. La prêtrise est intrinsèquement active, non passive. Le président Ezra Taft Benson a enseigné « Ce n'est pas suffisant de recevoir la prêtrise, puis de se caler dans son fauteuil et d'attendre que quelqu'un nous pousse à l'action. Quand nous recevons la prêtrise, nous avons l'obligation de devenir activement et sincèrement engagés à promouvoir la cause de la justice sur terre, parce que le Seigneur a dit « Celui qui ne fait rien tant qu'on ne le lui a pas commandé et qui reçoit un commandement le cœur indécis et le garde avec paresse, celui-là est condamné. » Fin de citation. Le président Spencer W. Kimball a également souligné la nature active de la prêtrise. Je cite « On viole l'alliance de la prêtrise en transgressant les commandements, mais aussi en négligeant ses devoirs. En conséquence, pour enfreindre cette alliance, il suffit de ne rien faire. » Fin de citation. En faisant de notre mieux pour nous acquitter de nos responsabilités de la prêtrise, nous pouvons avoir la bénédiction de jouir du pouvoir de la prêtrise. Le pouvoir de la prêtrise est le pouvoir de Dieu en action à travers des hommes et des garçons comme nous et requiert la justice personnelle, la fidélité, l'obéissance et la diligence. Un garçon ou un homme peut recevoir l'autorité de la prêtrise par l'imposition des mains, mais il n'aura aucun pouvoir de la prêtrise s'il est désobéissant, indigne ou n'est pas disposé à servir. Les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Il est vrai qu'ils peuvent nous être conférés, mais lorsque nous entreprenons de couvrir nos péchés ou d'assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou d'exercer avec quelque degré d'injustice que ce soit une emprise, une domination ou une contrainte sur l'âme des enfants des hommes, voici, les cieux se retirent. L'Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu'il est retiré, c'est la fin de la prêtrise ou de l'autorité de cet homme. Mes frères, il est inacceptable pour le Seigneur qu'un garçon ou qu'un homme reçoive la prêtrise, mais néglige de faire ce qui est nécessaire pour se qualifier pour avoir le pouvoir de la prêtrise. Les détenteurs de la prêtrise, jeunes et vieux, ont besoin de l'autorité et du pouvoir. La permission nécessaire et la capacité spirituelle de représenter Dieu dans l'œuvre du salut. J'ai été élevé dans un foyer avec une mère fidèle et un père merveilleux. Ma mère descendait de pionniers qui avaient tout sacrifié pour l'Église et le royaume de Dieu. Mon père n'était pas membre de notre Église et avait voulu devenir prêtre catholique dans sa jeunesse. Finalement, il a choisi de ne pas entrer au séminaire et est devenu fabricant d'outils et de teintures. Pendant une grande partie de sa vie d'homme marié, mon père a assisté aux réunions de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours avec notre famille. En fait, la plupart des gens de notre paroisse ne savaient pas que mon père n'était pas membre de l'Église. Il jouait dans l'équipe de softball de notre paroisse et l'entraînait, aidait aux activités scouts et soutenait ma mère dans ses divers appels et responsabilités. Je voudrais vous parler d'une des grandes leçons que mon père m'a données à propos de l'autorité et du pouvoir de la prêtrise. Lorsque j'étais enfant, je demandais à mon père plusieurs fois par semaine quand il allait se faire baptiser. Il me répondait avec amour mais fermement chaque fois que je le harcelais. « David, je ne deviendrai pas membre de l'Église pour ta mère, pour toi ou pour qui que ce soit d'autre. Je deviendrai membre lorsque je saurai que c'est la chose à faire. » Je pense que j'ai eu la conversation avec mon père au début de mon adolescence. Nous rentrions tout juste de nos réunions du dimanche et j'ai demandé à mon père quand il allait se faire baptiser. Il m'a souri et a dit « Tu es celui qui me parle toujours de me faire baptiser. Aujourd'hui, je voudrais te poser une question. » J'ai tout de suite conclu avec excitation que maintenant nous faisions des progrès. Mon père a continué. David, ton Église enseigne que la prêtrise a été enlevée de la terre dans les temps anciens et a été rétablie par des messagers célestes par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, n'est-ce pas? J'ai répondu que c'était vrai. Alors il a dit, voici ma question. Chaque semaine, à la réunion de prêtrise, j'écoute l'évêque et les autres dirigeants de la prêtrise rappeler aux frères et les supplier de faire leur enseignement au foyer et de s'acquitter de leur devoir de la prêtrise. Si ton Église a réellement la prêtrise de Dieu rétablie, pourquoi tant d'hommes dans ton Église n'ont-ils pas une attitude différente des hommes de mon Église vis-à-vis de leurs devoirs religieux? Mon jeune esprit s'est immédiatement trouvé bloqué. Je n'avais rien à répondre à mon père. Je pense que mon père avait tort de juger de la validité des prétentions de notre Église à l'autorité divine d'après les manquements des hommes qui fréquentaient dans notre paroisse. Mais sa question impliquait le point de vue correct, que les hommes qui détiennent la sainte prêtrise de Dieu devraient être différents des autres. Les hommes qui détiennent la prêtrise ne sont pas fondamentalement meilleurs que les autres, mais ils devraient agir différemment. Les hommes qui détiennent la prêtrise ne devraient pas seulement recevoir l'autorité de la prêtrise, mais aussi devenir des vecteurs dignes et fidèles du pouvoir de Dieu. Soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur. Je n'ai jamais oublié les leçons à propos de l'autorité et du pouvoir de la prêtrise que m'a donné mon père. Un homme bon, qui n'était pas de notre foi, qui en attendait plus de la part d'hommes qui affirmaient détenir la prêtrise de Dieu. Cette conversation du dimanche après-midi avec mon père, il y a de nombreuses années, a produit en moi le désir d'être un bon garçon. Je ne voulais pas être un piètre exemple et une pierre d'achoppement pour la progression de mon père dans son étude de l'Évangile rétabli. Je voulais simplement être un bon garçon. Le Seigneur a besoin de nous tous, détenteurs de son autorité. Soyons honorables, vertueux et de bons garçons, en tout temps et en tout lieu. Vous serez sans doute intéressé d'apprendre qu'un certain nombre d'années plus tard, mon père se fit baptiser. Et en temps opportun, j'ai eu la possibilité de lui conférer la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchisédek. L'une des grandes expériences de ma vie a été d'observer mon père recevoir l'autorité et finalement le pouvoir de la prêtrise. Si je vous parle de cette leçon mordante que mon père m'a donnée, c'est pour souligner une vérité simple. Recevoir l'autorité de la prêtrise par l'imposition des mains est un premier pas important, mais ce n'est pas suffisant. L'ordination confère l'autorité, mais la justice est requise pour agir avec pouvoir dans les efforts que nous faisons pour encourager des âmes, enseigner et témoigner, bénir et conseiller, et faire avancer l'œuvre du salut. Dans cette époque capitale de l'histoire du monde, nous avons besoin, vous et moi, détenteurs de la prêtrise, d'être des hommes justes et des instruments efficaces dans les mains de Dieu. Nous devons nous positionner en tant qu'hommes de Dieu. Nous ferions bien, vous et moi, de tirer la leçon de l'exemple de Néphi, le petit-fils d'Élaman, et le premier des 12 disciples appelés par le Sauveur au début de son ministère parmi les Néphites. Et il leur enseigna beaucoup de choses. Et Néphi enseigna avec puissance et avec une grande autorité. À la fin de l'entretien pour la délivrance d'une recommandation à l'usage du temple que je faisais en tant qu'évêque et président de Pieux, je demandais souvent aux sœurs mariées comment je pouvais les aider, elles et leurs familles. L'uniformité des réponses que je recevais de ces femmes fidèles était à la fois instructive et alarmante. Les sœurs se plaignaient ou critiquaient rarement, mais elles répondaient souvent comme suit. S'il vous plaît, aidez mon mari à comprendre sa responsabilité de dirigeant de la prêtrise dans notre foyer. Cela ne me dérange absolument pas de prendre l'initiative de l'étude des Écritures, de la prière familiale et de la soirée familiale, et je continuerai à le faire. Mais j'aimerais que mon mari soit un partenaire égal et assure la direction forte par la prêtrise que lui seul peut assurer. S'il vous plaît, aidez mon mari à apprendre comment devenir à la maison un patriarche et un dirigeant de la prêtrise qui préside et protège. Je pense souvent à la sincérité de ces sœurs et à leurs demandes. Les dirigeants de la prêtrise entendent les mêmes préoccupations aujourd'hui. De nombreuses femmes supplient pour avoir un mari qui ait non seulement l'autorité de la prêtrise, mais aussi le pouvoir de la prêtrise. Elles aspirent à un partenariat égal avec un mari et un compagnon de la prêtrise dans l'édification d'un foyer centré sur le Christ et l'Évangile. Mes frères, je vous promets que si nous méditons dans la prière sur les supplications de ces sœurs, le Saint-Esprit nous aidera à nous voir tels que nous sommes vraiment et nous aidera à reconnaître ce que nous devons changer et améliorer. Et c'est maintenant, mes frères, qu'il faut agir. Ce soir, je réitère les enseignements du président Monson, qui nous a invités à être des exemples de justice. Il nous a maintes fois rappelé que nous sommes les messagers de Dieu et que nous avons droit à son aide en fonction de notre dignité. Nous détenons, vous et moi, l'autorité de la prêtrise qui a été rétablie sur terre en cette dispensation par des messagers célestes, Jean-Baptiste et Pierre, Jacques et Jean. Et ainsi, chaque homme qui reçoit la prêtrise de Melchisédek peut faire remonter sa ligne d'autorité directement jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous sommes reconnaissants de cette merveilleuse bénédiction. Je prie pour que nous soyons purs et dignes de représenter le Seigneur en exerçant son autorité sacrée. Que chacun d'entre nous se qualifie pour le pouvoir de la prêtrise. Je témoigne que la Sainte Prêtrise a été rétablie sur la terre en ces derniers jours et se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je témoigne également que le président Monson est le grand prêtre dirigeant de la haute prêtrise de l'Église et la seule personne sur terre qui détient et peut exercer toutes les clés de la prêtrise. Je témoigne solennellement de ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Ces derniers mois, les dirigeants de l'Église mettent de plus en plus l'accent sur le retour de tous ceux qui désirent recevoir et respecter les ordonnances et les alliances salvatrices et la manière de vivre avec un grand changement de cœur décrit par Alma. Une des façons les plus importantes et les plus efficaces d'avoir une croissance réelle est de tendre la main aux personnes baptisées qui, toujours non pratiquantes, sont privés des bénédictions et des ordonnances salvatrices, afin de les ramener à l'Église, quel que soit notre appel, visiteur au foyer ou instructrice visiteuse, instructeur à l'école du dimanche, évêque, père, mère ou autorité générale, nous pouvons tous nous engager efficacement dans l'effort de sauvetage. Après tout, amener tout le monde au Christ, notre famille, les non-membres, les non-pratiquants, les pécheurs, pour recevoir les ordonnances salvatrices et l'appel divin que nous avons tous. Il y a une trentaine d'années, un dimanche matin, j'étais alors dans une présidence de pieux. Nous avons reçu un appel téléphonique d'un de nos fidèles évêques. Il nous expliquait que sa paroisse avait grandi si rapidement qu'il ne pouvait plus donner un appel valable à tous les membres dignes. Il souhaitait que nous divisions la paroisse. En attendant l'approbation, la présidence de pieux a décidé d'aller à la paroisse pour appeler ses frères et ses sœurs formidables comme missionnaires de pieux. La troisième personne, je crois, à qui j'ai rendu visite était une jeune étudiante qui allait à l'université locale. Après avoir bavardé quelques instants, je l'ai appelée à être missionnaire. Pendant un moment, ça a été le silence. Puis elle a dit, « Frère, vous ne savez pas que je ne suis pas pratiquante ?» Après quelques instants de silence de ma part, j'ai dit non, je ne le savais pas. Elle a répondu, cela fait des années que je ne vais pas à l'église. Ensuite, elle a dit, vous ne savez pas que lorsqu'on ne pratique pas, ce n'est pas du tout facile de revenir. J'ai répondu, non. Votre paroisse commence ses réunions à 9h du matin. Venez à l'église et vous nous y trouverez. Elle a répondu, non, ce n'est pas aussi simple. On s'inquiète de quantité de choses. On se demande si on va être accueilli ou si on va s'asseoir seul sans que personne ne vous remarque pendant les réunions. Et on s'inquiète de savoir si on va être accepté et qui seront nos nouveaux amis. Le visage baigné de larmes, elle a continué. Je sais que mon père et ma mère prient pour moi depuis des années pour que je revienne à l'église. Puis après un autre moment de silence, elle a dit, « Depuis 3 mois, je prie pour trouver le courage, la force et le moyen de redevenir pratiquante. » Puis elle a demandé, « Frère, pensez-vous que cet appel soit la réponse à ses prières ?» Mes yeux se sont remplis de larmes pendant que je répondais. Je crois que le Seigneur a répondu à vos prières. Non seulement elle a accepté l'appel, mais elle est devenue une excellente missionnaire. Et je suis certain qu'elle a apporté beaucoup de joie, non seulement à elle-même, mais aussi à ses parents, et probablement aux autres membres de la famille. Cet entretien et d'autres de ce genre m'ont appris plusieurs choses. J'ai appris que beaucoup de membres non pratiquants ont des êtres chers qui les aiment et qui prient à genoux tous les jours en demandant au Seigneur de les aider à sauver ceux qu'ils aiment. J'ai appris que ce n'est pas du tout facile ni agréable pour un membre non pratiquant de revenir tout simplement à l'Église. Il a besoin d'aide, il a besoin de soutien, il a besoin de s'intégrer. Cependant, j'ai appris que nous avons des membres non pratiquants qui veulent et qui essayent de retrouver le chemin de l'assiduité. J'ai appris que de nombreux membres non pratiquants accepteront des appels si on le leur demande. J'ai appris qu'un membre non pratiquant mérite qu'on le traite en égal et qu'on le considère comme un fils ou une fille d'un Dieu aimant. Au fil des années, je me suis demandé sur quoi cet entretien aurait débouché. Si j'avais abordé cette jeune fille comme un membre de l'Église non pratiquant, je vous laisse juge. Mais soyez indulgent envers moi. La remotivation a toujours été une partie importante de l'œuvre du Seigneur. Ramener les non-pratiquants est du ressort de tous les membres. Cependant, les détenteurs de la prêtrise de Melchisedec et d'Aaron ont la responsabilité de l'initiative dans cette œuvre. Après tout, le service dans la prêtrise, c'est cela. Emmener tout le monde à accepter les alliances qui emmènent à l'exaltation, apporter la paix, le bonheur et l'estime de soi. Dans le livre de Mormon, vous vous rappellerez que lorsqu'il découvrit que les Oramites s'étaient éloignés de l'Église, Alma le Jeune organisa une équipe de remotivation pour ramener ces gens. Au moment d'assumer leur appel, ils prièrent le Seigneur en ces termes. « Ô Seigneur, veuille nous accorder de réussir à te les ramener dans le Christ. » Ramener. Voici, ô Seigneur, leur âme est précieuse, et beaucoup d'entre eux sont nos frères. C'est pourquoi, donne-nous, ô Seigneur, du pouvoir et de la sagesse, afin que nous te ramenions ceux-ci qui sont nos frères. Il y a quelques mois, après une réunion avec des nouveaux convertis et des membres non pratiquants et des membres remotivés, un homme qui avait environ mon âge est venu me voir et m'a dit « Je suis resté non pratiquant la majeure partie de ma vie. Je me suis éloigné tôt de l'Église. Mais maintenant, je suis de retour et je travaille au temple avec ma femme. » Pour lui manifester que tout allait bien, je lui ai répondu quelque chose comme « Tout est bien qui finit bien ». Il a répliqué « Non, tout n'est pas bien. Je suis de retour à l'Église, mais j'ai perdu tous mes enfants et mes petits-enfants. Et maintenant, je suis en train de voir la perte de mes arrière-petits-enfants, tous en dehors de l'Église. Tout n'est pas bien. Dans notre famille, nous avons un ancêtre qui est devenu membre de l'Église en Europe à ses débuts. Un fils est devenu non-pratiquant. Sœur Edgley et moi avons essayé de retrouver la trace des descendants non-pratiquants de cet ancêtre. Il nous est facile, à ma femme et à moi, de conclure que durant les 6 générations suivantes, et selon des hypothèses raisonnables, il y a pu avoir jusqu'à 3000 membres de la famille de perdus. Maintenant, faisons une projection sur 2 autres générations. Théoriquement, la perte pourrait tourner entre 20 000 et 30 000 enfants de notre Père Céleste. La responsabilité de sauver les âmes s'appuie sur un des points de doctrine fondamentaux de l'Église. Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et si vous travaillez toute votre vie à appeler ce peuple au repentir, et que vous m'emmenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. J'ai eu la bénédiction de ramener quelques membres non pratiquants au cours de ma vie. Maintenant, quand j'aide au retour à l'assiduité d'une personne dans l'Église, je ne vois pas simplement une âme. Je vois 6, 7 ou davantage de générations, des milliers d'âmes. Alors je pense à l'Écriture, et que vous m'emmenez ne fût-ce qu'une seule âme, comme votre joie sera grande avec elle dans le royaume de mon Père. Le Seigneur a dit à ses apôtres, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » On a besoin de beaucoup d'ouvriers. Nous avons des milliers de détenteurs de la prêtrise, dignes et compétents, et des millions de membres de l'Église engagés dans toutes les parties du monde. Nous disposons de conseils de paroisse, de collèges de prêtrise, de sociétés de secours et d'autres organisations, tous responsables de remotiver les membres non pratiquants. Le salut des âmes est l'œuvre à laquelle le Sauveur nous a tous appelés à participer. Précédemment, dans mon discours, j'ai fait allusion à la prière qu'Alma et ses compagnons ont faite au moment où ils partaient pour sauver les Oramites. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, environ 500 soldats américains et des résistants locaux furent détenus dans un camp de prisonniers. À cause de leur souffrance et de l'inquiétude pour leur sécurité, une centaine de soldats volontaires furent choisis pour délivrer ces prisonniers. Une fois les volontaires réunis, l'officier en charge leur dit en substance, « Ce soir, vous vous réunissez avec vos dirigeants religieux, vous vous agenouillez et vous jurez devant Dieu qu'aussi longtemps que vous aurez un souffle de vie, vous ne permettrez pas que ces hommes souffrent un instant de plus. » Ce sauvetage réussi concernait une souffrance physique et temporelle. Devrions-nous être moins vaillants dans nos efforts pour sauver les personnes qui pourraient souffrir de conséquences spirituelles et éternelles? Devrions-nous être moins engagés envers le Seigneur? En conclusion, nous, membres de la véritable Église vivante du Christ, notre engagement s'enracine dans le fait que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous, les non-membres, les non-pratiquants, les pécheurs et les membres de notre famille. Je crois que nous pouvons emmener des milliers de gens à la joie, la paix et la douceur de l'Évangile, et je crois que des centaines de milliers, voire des millions de leurs descendants. Je crois que nous pouvons réussir, parce que c'est l'Église du Seigneur, et en vertu de notre prêtrise, et en tant que membres, nous avons été appelés pour réussir. Je vous en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Not long ago, I was in South Africa.
Je suis allé récemment dans une maison en Afrique du Sud avec Tabison, premier assistant du collège des prêtres de la paroisse de Kagiso. Tabison et son évêque, qui préside et détient les clés de ce collège, ont prié pour les membres non pratiquants de ce collège, recherchant l'inspiration pour savoir qui visiter et comment les aider. Ils ont senti qu'ils devaient aller chez Tebelo et m'ont convié à les accompagner. Après être passés devant le chien de garde féroce, nous sommes retrouvés dans le salon avec Tebelo, jeune homme très calme qui a cessé d'aller à l'église parce qu'il avait d'autres occupations le dimanche. Il était nerveux, mais heureux de nous recevoir et a même invité sa famille à se joindre à lui. L'évêque a exprimé son amour pour cette famille et son désir de l'aider à devenir éternel en étant scellé au temple. La famille a eu le cœur touché et nous pouvions tous fortement ressentir la présence du Saint-Esprit derrière chaque mot et chaque sentiment. Mais ce sont les mots de Tabiso qui ont fait la différence dans cette visite. J'avais l'impression que ce jeune prêtre parlait la langue des anges, des mots aimants que nous pouvions tous comprendre et qui ont particulièrement touché son ami. J'aimais tellement parler tout le temps avec toi à l'église, a-t-il dit. Tu as toujours un mot gentil pour moi. Et tu sais, notre équipe de football a quasiment disparu depuis que tu es parti. Tu es si doué. Tabello a répondu, « Je suis désolé. Je reviendrai avec vous. » Ce serait génial, a répondu Tabisso. Tu te rappelles comment nous préparions pour notre mission? On peut le refaire? Oui, a répété Tabello. Je veux revenir. L'une des plus grandes joies que j'ai comme conseiller dans la présidence générale des jeunes gens est de voir les détenteurs de la prêtrise d'Aaron du monde entier exercer le pouvoir de la prêtrise d'Aaron. Mais il m'arrive aussi de voir avec tristesse de nombreux jeunes gens qui ne comprennent pas tout le bien qu'ils peuvent faire grâce au pouvoir qu'ils détiennent. Comme nous l'avons entendu de la part d'Elder Bernard, la prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu d'agir au service de ses enfants. Oh, si seulement chaque jeune homme, chaque détenteur de la prêtrise d'Aaron pouvait pleinement comprendre que sa prêtrise possède les clés du ministère d'ange. Si seulement il pouvait comprendre qu'il a le pouvoir sacré d'aider ses amis à trouver le chemin qui mène au Sauveur. Si seulement il savait que notre Père Céleste lui donnera le pouvoir d'expliquer les vérités de l'Évangile rétabli avec tant de clarté et de sincérité que les autres ressentiront la véracité indéniable des paroles du Christ. Chers jeunes gens de l'Église, je vais vous poser une question que j'espère vous conserverez dans votre cœur toute votre vie. Quel pouvoir plus grand pouvez-vous acquérir sur terre que la prêtrise de Dieu? Quel pouvoir pourrait bien être plus grand que la capacité d'aider notre Père Céleste à changer la vie de vos semblables, à les aider sur le chemin du bonheur éternel, en étant purifiés du péché et des mauvaises actions? Comme tout autre pouvoir, la prêtrise doit être exercée pour faire le bien. Vous êtes appelés à vous lever et briller, pas à cacher votre lumière dans les ténèbres. Seuls ceux qui sont courageux seront comptés parmi les élus. Exercez le pouvoir de votre prêtrise sacrée et votre courage et votre confiance grandiront. Jeunes gens, vous savez que c'est quand vous êtes au service de Dieu que vous êtes sous votre meilleur jour. Vous savez que c'est quand vous œuvrez avec zèle à une bonne cause que vous êtes le plus heureux. Magnifiez le pouvoir de votre prêtrise en étant pur et digne. J'ajoute ma voix à l'appel que Frère Hollande vous a lancé il y a 6 mois à ce pupitre. Je recherche, a-t-il dit, des hommes jeunes et vieux qui se préoccupent suffisamment de la bataille entre le bien et le mal pour s'enrôler et ouvrir la bouche. Nous sommes en guerre. Je demande une voix plus forte, pas seulement contre le mal, mais une voix qui parle pour le bien, pour l'Évangile, pour Dieu. Oui, détenteurs de la prêtrise d'Aaron, nous sommes en guerre. Et dans cette guerre, la meilleure façon de se défendre contre le mal est de pouvoir promouvoir activement la justice. Vous ne pouvez pas écouter des mots grossiers et faire comme si vous n'aviez rien entendu. Vous ne pouvez pas regarder seul ou avec d'autres des images que vous savez être malsaines et faire comme si vous n'aviez rien vu. Vous ne pouvez pas toucher de choses impures et faire comme si ce n'était pas grave. Vous ne pouvez pas être passif quand Satan cherche à détruire ce qui est saint et pur. Au lieu de cela, défendez avec bravoure ce que vous savez être vrai. Quand vous entendez ou voyez quelque chose qui enfreint les principes du Seigneur, rappelez-vous qui vous êtes, un soldat de l'armée de Dieu, détenant le pouvoir de la sainte prêtrise. Il n'y a pas de meilleure arme contre l'ennemi, le père des mensonges, que la vérité. La vérité qui sortira de votre bouche quand vous exercerez le pouvoir de la prêtrise. La plupart de vos camarades respecteront votre courage et votre intégrité. D'autres, non. Mais cela ne fait rien. Vous gagnerez le respect et la confiance de votre Père Céleste parce que vous avez utilisé son pouvoir pour accomplir ses objectifs. J'appelle chaque présidence de collège de la prêtrise d'Aaron à élever une fois encore l'étendard de la liberté, à organiser et à mener vos bataillons. Utilisez le pouvoir de votre prêtrise pour inviter ceux qui sont autour de vous à aller au Christ par le repentir et le baptême. Vous avez l'autorité et le pouvoir de votre Père Céleste pour le faire. Il y a 2 ans, en visite à Santiago, au Chili, j'ai été très impressionné par Daniel Olate, jeune homme qui accompagnait souvent les missionnaires. Je lui ai demandé de m'écrire et, avec sa permission, je vais vous lire une partie d'un de ses récents courriels. Je viens d'avoir 16 ans et dimanche, j'ai été ordonné à l'office de prêtre. Ce même jour, j'ai baptisé une amie. Elle s'appelle Carolina. Je lui ai enseigné l'Évangile et elle est venue régulièrement à l'église. Elle a même reçu sa distinction du progrès personnel, mais ses parents ne voulaient pas l'autoriser à se faire baptiser avant qu'ils n'apprennent à me connaître et à me faire confiance. Elle voulait que je la baptise. On a dû donc attendre un mois jusqu'à ce dimanche, quand j'ai eu 16 ans. Je me sens si bien d'avoir aidé quelqu'un d'aussi bon à être baptisé. Et je suis heureux d'avoir pu la baptiser. Daniel est l'un des nombreux jeunes gens dans le monde qui vivent à la hauteur du pouvoir que Dieu leur a confié. Luis Fernando du Honduras en est un autre. Il a remarqué que son ami prenait un chemin dangereux et lui a rendu son témoignage, ce qui lui a littéralement sauvé la vie. Olavo du Brésil en est un autre exemple. Vrai ministre permanent de son foyer, Olavo a inspiré sa mère à redevenir entièrement pratiquante dans l'Église. Vous pouvez trouver certaines de ses histoires et beaucoup d'autres semblables sur le site Internet de l'Église pour les jeunes. Faites juste une recherche sur Internet. D'ailleurs, l'Internet, les médias sociaux et les autres technologies sont des outils que le Seigneur a mis dans vos mains pour vous aider à exercer vos devoirs de prêtrise et pour étendre l'influence de la vérité et de la vertu. Chers jeunes gens, quand vous exercez la prêtrise d'Aaron de la façon que j'ai décrite, vous vous préparez pour les responsabilités que vous aurez plus tard. Mais vous faites beaucoup plus que cela. Comme Jean-Baptiste, ce détenteur exemplaire de la prêtrise d'Aaron, vous préparez aussi la voie du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Quand vous annoncez hardiment l'Évangile de repentir et du baptême, comme Jean l'a fait, vous préparez le peuple à la venue du Seigneur. On vous parle souvent de votre grand potentiel. Il est temps maintenant de mettre ce potentiel en action, d'utiliser les capacités que Dieu vous a données pour faire du bien aux autres, pour les amener de l'obscurité à la lumière et préparer le chemin du Seigneur. L'Église vous a donné le livret du devoir envers Dieu comme ressource pour vous aider à apprendre et accomplir vos devoirs. Étudiez-le souvent, agenouillez-vous, loin de la technologie, et recherchez les conseils du Seigneur. Puis, levez-vous et utilisez le pouvoir de Dieu. Je promets que vous recevrez des réponses de votre Père Céleste sur la façon de mener votre vie et d'aider les autres. Je cite les paroles du président Monson. Ne sous-estimez pas l'influence à long terme de votre témoignage. Vous avez la capacité de remarquer ce qui ne se remarque pas. Si vous avez des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour ressentir les choses, vous pouvez tendre la main aux autres et les sauver. Je vous témoigne que le pouvoir de la prêtrise est réel. J'ai reçu mon témoignage en exerçant la prêtrise. J'ai vu ceux qui détiennent le pouvoir de la prêtrise d'Aaron accomplir des miracles. J'ai été témoin du pouvoir du ministère d'ange quand des détenteurs fidèles de la prêtrise d'Aaron prononcent sous l'influence de l'Esprit des paroles d'espoir qui ouvrent le cœur de quelqu'un qui a besoin de lumière et d'amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre dirigeant et notre Sauveur. Amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Anciens d'Israël. Après ce cantique, le président Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera la parole. Ensuite, j'aurai le plaisir de vous adresser la parole.
Je suis heureux de l'occasion qui m'est donnée de me réunir avec les frères de la prêtrise et je me réjouis avec vous de la beauté du merveilleux évangile de Jésus-Christ. Je vous félicite de votre foi, de vos œuvres et de votre justice continuelle. Nous avons un lien commun du fait que nous avons tous reçu l'ordination à la prêtrise de Dieu de la part de personnes à qui a été confiée la sainte autorité de la prêtrise. Ce n'est pas une mince bénédiction, c'est une responsabilité sacrée. Ces derniers temps, j'ai réfléchi à deux appels importants que j'ai reçus en tant que détenteur de la prêtrise dans l'Église. J'ai reçu le premier de ces appels quand j'étais diacre. J'assistais aux réunions avec ma famille dans la branche de l'église de Francfort, en Allemagne. Il y avait beaucoup de gens formidables dans notre petite branche. L'une d'elles était notre président de branche, frère Landschulz. Je l'admirais énormément, même s'il avait toujours l'air plutôt sérieux, très officiel, et portait la plupart du temps un costume sombre. Je me vois encore plaisanter dans ma jeunesse avec mes amis sur le caractère vieux jeu de notre président de branche. Quand je pense à cela maintenant, cela me fait rire, parce qu'il est fort possible que les jeunes d'aujourd'hui me perçoivent d'une manière très semblable. Un dimanche, le président Landschulz a demandé s'il pouvait me parler. Ma première pensée a été « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Mon esprit a rapidement passé en revue les nombreuses choses que j'aurais pu faire pour provoquer cette discussion entre président de branche et diacre. Le président Landschulz m'a fait entrer dans une petite salle de classe. Notre bâtiment n'avait pas de bureau pour la présidente de branche. Et là, il m'a appelé comme président du collège des diacres. Il a dit « C'est un poste important ». Puis il a pris le temps de décrire pourquoi. Il a expliqué ce que le Seigneur et lui attendaient de moi et comment je pouvais recevoir de l'aide. Je ne me souviens pas beaucoup de ce qu'il a dit, mais je me souviens très bien de ce que j'ai ressenti. Un esprit sacré et divin a rempli mon cœur pendant qu'il parlait. Je pouvais sentir que c'était l'Église du Sauveur. Et j'ai senti que l'appel qu'il m'avait proposé était inspiré par le Saint-Esprit. Je me rappelle être sorti de cette minuscule salle de classe en me sentant bien plus grand qu'avant. Cela fait presque 60 ans de cela, et je chéris encore ces sentiments de confiance et d'amour. En repensant à cette expérience, j'ai essayé de me souvenir du nombre de diacres qu'il y avait dans notre branche à cette époque. Autant que je me rappelle, je pense qu'ils étaient deux. Cependant, c'est peut-être exagéré. Cela n'avait pas réellement d'importance, qu'il y ait un diacre ou une douzaine. Je me sentais honoré et je voulais œuvrer au mieux de mes capacités et ne décevoir ni mon président de branche, ni le Seigneur. Je me rends compte maintenant que le président de branche aurait pu simplement m'appeler sans plus à ce poste. Il aurait pu juste me dire dans le couloir ou pendant notre réunion de prêtrise que j'étais le nouveau président du collège des diacres. Au lieu de cela, il a passé du temps avec moi et m'a aidé à comprendre la nature de ma tâche et, chose plus importante, les raisons. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous avons besoin qu'on nous rappelle constamment les raisons éternelles des choses que l'on nous commande de faire. Les principes de base de l'Évangile doivent faire partie de la structure de notre vie, même si cela signifie qu'il faut les apprendre encore et encore. Cela ne veut pas dire que ce processus doit être machinal ou ennuyeux. Au contraire, quand nous enseignons les principes fondamentaux chez nous ou à l'Église, il faut que la flamme de l'enthousiasme pour l'Évangile et le feu du témoignage apportent la lumière, la chaleur et la joie dans le cœur des personnes que nous instruisons. Le but de cette histoire n'est pas de simplement décrire comment on propose un appel dans l'Église, bien que cela soit un exemple merveilleux pour moi de la bonne façon de le faire. C'est une leçon sur le pouvoir de motivation qui vient des dirigeants de prêtrise et qui éveille l'esprit et pousse à l'action. Depuis le diacre le plus récemment ordonné jusqu'au prêtre le plus ancien, nous avons tous des listes de ce que nous pouvons faire et devons faire dans nos responsabilités de la prêtrise. La nature des choses à faire est importante et nous devons nous en occuper. Mais c'est dans les raisons que nous découvrons le feu, la passion et le pouvoir de ce que nous faisons. La nature du service de la prêtrise enseigne quoi faire. Les raisons inspirent notre âme. La nature informe, les raisons transforment. Un autre appel de la prêtrise auquel je repense m'est venu de nombreuses années plus tard quand j'avais ma propre famille. Nous étions revenus à Francfort et je venais de recevoir une promotion au travail qui allait nécessiter beaucoup de mon temps et de mon attention. Durant cette période bien occupée de ma vie, Joseph B. Worthlin m'a appelé à devenir président de Pieux. Pendant mon entretien avec lui, beaucoup de pensées m'ont traversé l'esprit, parmi lesquelles, et non des moindres, l'inquiétude déconcertante que je n'aurais peut-être pas le temps nécessaire pour cet appel. Bien que désemparé et honoré devant l'appel, je me suis demandé un court instant si je pouvais l'accepter. Mais cela n'a été qu'une pensée fugace, parce que je savais que frère Worthlin était appelé de Dieu et qu'il accomplissait l'œuvre du Seigneur. Que pouvais-je faire d'autre qu'accepter ? Il y a des moments où l'on doit avancer dans l'obscurité avec foi, confiant que Dieu mettra une terre ferme sous nos pieds une fois que nous aurons avancé. Et ainsi j'ai accepté de bon cœur, sachant que Dieu pourvoirait. Au début de mon entrée en fonction, notre pieu a eu la bénédiction de recevoir une formation de la part des plus grands instructeurs et dirigeants de l'Église, des hommes comme Russell M. Nelson et Thomas S. Monson. Leur enseignement était comme la rosée des cieux et une inspiration pour nous. J'ai encore les notes que j'ai prises pendant ces sessions de formation. Ces frères nous ont donné la vision de ce que signifie établir le royaume de Dieu en édifiant des témoignages personnels et en fortifiant les familles. Ils nous ont aidés à voir comment appliquer la vérité et les principes de l'Évangile à nos situations particulières et à notre époque particulière. En d'autres termes, des dirigeants inspirés nous ont aidés à voir la raison de l'Évangile. Et nous avons dû remonter nos manches et nous mettre au travail. Il ne nous a pas fallu longtemps pour nous rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'une présidence de pieux pouvait faire. Tellement, en fait, que si nous ne fixions pas des priorités sous l'inspiration, nous risquions de ne pas faire celles qui étaient importantes. Il a commencé à y avoir des priorités multiples, détournant notre concentration de la vision présentée par les frères. Il y avait beaucoup de bonnes choses à faire, mais toutes n'étaient pas extrêmement importantes. Nous avons appris une leçon importante. Le fait que quelque chose est bon n'est pas toujours une raison suffisante pour y consacrer notre temps et nos moyens. Nos activités, nos initiatives et nos plans doivent être inspirés et motivés par la raison fondamentale de notre service dans la prêtrise et non par une mode tapageuse ou par un intérêt passager. Sinon, ils peuvent détourner nos efforts, diluer notre énergie et nous prendre au piège dans nos marottes spirituelles qui, même si elles sont bonnes, ne sont pas au cœur de notre condition de disciple. Mes frères, nous savons tous qu'il faut de l'autodiscipline pour rester concentré sur les questions qui ont le plus grand pouvoir d'augmenter notre amour pour notre Dieu et pour nos semblables. Vivifier les mariages, fortifier les familles et édifier le royaume de Dieu. Comme un arbre fruitier qui a de nombreuses branches et beaucoup de feuilles, notre vie a besoin d'être taillée à date régulière afin que nous utilisions notre énergie et notre temps pour accomplir notre objectif véritable, produire du bon fruit. Alors, comment fait-on pour savoir ce qu'il faut garder ? Nous avons tous la responsabilité de décider cela par nous-mêmes. Cependant, il nous est commandé d'étudier diligemment les Écritures, de prêter attention aux paroles des prophètes et d'en faire un sujet de prière pleine de foi. Mes frères, Dieu est fidèle. Par le Saint-Esprit, il donnera la paix de l'esprit et du cœur concernant chaque séquence de notre vie. Si notre cœur est pur, si nous ne recherchons pas notre gloire personnelle, mais la gloire du Tout-Puissant, si nous cherchons à faire sa volonté, si nous désirons faire du bien à notre famille et à nos semblables, nous ne serons pas laissés seuls. Comme le président Monson nous l'a souvent rappelé, quand nous sommes à son service, nous avons droit à l'aide du Seigneur. Votre Père céleste ira de votre face, sera à votre droite et à votre gauche, et son esprit sera dans votre cœur, et ses anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Mes chers frères, les bénédictions divines pour notre service dans la prêtrise sont activées par nos efforts diligents, notre volonté de faire des sacrifices et notre désir de faire ce qui est juste. Soyons des dirigeants qui se meuvent et qui ne sont pas mus. Il est bien de prêcher, mais les sermons qui ne mènent pas à l'action sont comme des feux sans chaleur ou de l'eau qui ne désaltèrent pas. C'est par l'application de la doctrine que la flamme purificatrice de l'Évangile grandit et que le pouvoir de la prêtrise enflamme notre âme. Thomas Edison, l'homme qui a inondé le monde de la lumière incandescente, a dit que la valeur d'une idée repose sur son utilisation. De la même manière, la doctrine de l'Évangile devient plus précieuse quand elle est mise en application. Nous ne devons pas permettre aux doctrines de la prêtrise de sommeiller dans notre cœur et de ne pas être appliquées dans notre vie. Si un mariage ou une famille, les nôtres peut-être, ont besoin d'être secourus, n'attendons pas de voir. Non. Remercions Dieu pour le plan de bonheur qui comporte la foi, le repentir, le pardon et de nouveaux départs. Si nous appliquons la doctrine de la prêtrise, cela fera de nous des maris, des pères et des fils qui comprennent la raison de la prêtrise et son pouvoir de retrouver et de conserver la beauté et la sainteté des familles éternelles. La conférence générale est toujours un bon moment pour à la fois écouter et agir. C'est pourquoi mettons en pratique la parole et ne nous bornons pas à l'écouter. Mes frères, je vous invite à réfléchir aux paroles prononcées par les serviteurs de Dieu ce week-end. Ensuite, mettez-vous à genoux et parlez au Seigneur. Demandez à Dieu, notre Père céleste, d'éclairer votre esprit et de toucher votre cœur. Suppliez Dieu de vous guider dans votre vie quotidienne, dans vos responsabilités, dans l'Église et dans les difficultés qui vous sont propres. Suivez les inspirations de l'Esprit sans tarder. Je vous promets que si vous faites tout cela, le Seigneur ne vous laissera pas marcher seul. Nous savons que malgré nos meilleures intentions, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Nous commettons des erreurs dans la vie et dans notre service dans la prêtrise. Il nous arrive de faire un faux pas et d'échouer. Quand il nous conseille de persévérer avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits, le Seigneur reconnaît que cela prend du temps et de la persévérance. Si nous comprenons les raisons de l'Évangile et les raisons de la prêtrise, cela nous aidera à voir le dessein divin de tout cela. Cela nous donnera de la motivation et de la force de faire ce qui est juste même quand cela est difficile. Si nous restons concentrés sur les principes fondamentaux de l'Évangile, cela nous donnera de la clarté et de la sagesse et nous dira où nous orienter. Ne persévérerons-nous pas dans une si grande cause? Bien sûr que si, mes frères. Guidés par le Saint-Esprit, nous tirerons la leçon de nos erreurs. Si nous trébuchons, nous nous relèverons. Si nous faiblissons, nous continuerons d'avancer. Nous ne vacillerons jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Nous, la fraternité puissante de la prêtrise éternelle de Dieu, serons unis, épaule contre épaule, concentrés sur les principes de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ et reconnaissants, au service de notre Dieu et de nos semblables avec dévouement et amour. Mes chers frères, je vous témoigne que Dieu, le Père et son Fils, Jésus-Christ, vivent. Ils sont réels. Ils sont là. Vous n'êtes pas seul. Votre Père céleste se soucie de vous et désire vous bénir et vous aider à continuer dans la justice. Soyez assurés que Dieu parle aux hommes à notre époque. Il vous parlera. Joseph Smith, le prophète, a vu ce qu'il dit avoir vu. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est rétablie sur la terre par le pouvoir et l'autorité du Dieu Tout-Puissant. Je prie pour que nous, détenteurs de la prêtrise, restions toujours sensibles à la raison du service dans la prêtrise et utilisions les principes de l'Évangile rétabli pour transformer nos vies et la vie des personnes que nous servons. Ce faisant, le pouvoir infini de l'expiation purifiera et raffinera notre esprit et notre personnalité jusqu'à ce que nous devenions les hommes que nous sommes censés devenir. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je suis reconnaissant d'être avec vous dans cette réunion à laquelle sont invités tous les détenteurs de la prêtrise de Dieu qui se trouvent sur la terre. Nous sommes bénis d'avoir Thomas S. Monson pour président en sa qualité de président de l'Église. Il est le seul homme vivant responsable des clés qui scellent les familles, ainsi que toutes les ordonnances de la prêtrise nécessaires pour atteindre la vie éternelle, le plus grand de tous les dons de Dieu. Il y a un Père qui écoute ce soir, qui est redevenu pratiquant parce qu'il veut de tout son cœur avoir l'assurance de ce don. Sa femme et lui aiment leurs deux jeunes enfants, un garçon et une fille. Comme d'autres parents, il peut imaginer le bonheur céleste quand il lit ces mots. On ouvre la parenthèse, et cette même sociabilité qui existe parmi nous ici existera parmi nous là-bas. Seulement, elle sera accompagnée de gloire éternelle. Gloire dont nous ne bénéficions pas maintenant. Fermeture de la parenthèse. Le Père qui écoute avec nous ce soir connaît le chemin qui mène à cette glorieuse destination. Ce n'est pas facile. Il sait déjà cela. Il a fallu de la foi en Jésus-Christ, un profond repentir et un changement de cœur qui s'est produit quand un évêque bienveillant l'a aidé à ressentir le pardon aimant du Seigneur. De merveilleux changements continuent à se produire quand il est allé au Saint-Temple pour recevoir une dotation que le Seigneur a décrite aux personnes à qui il a donné du pouvoir dans le premier temple de sa dispensation. C'était à Kirtland, en Ohio. Le Seigneur a dit, on ouvre la parenthèse, « Pour cette raison, je vous ai donné le commandement d'aller en Ohio, et je vous y donnerai ma loi, et vous y serez dotés du pouvoir d'en haut. » J'ai une grande œuvre en réserve, car Israël sera sauvé, et je les conduirai là où je le veux, et aucun pouvoir ne retiendra ma main. Pour mon ami qui vient de revenir à l'Église, et pour toute la prêtrise, une grande œuvre qui nous attend, c'est de prendre l'initiative pour sauver cette partie d'Israël dont nous sommes, ou dont nous serons responsables, notre famille. Il savait, mon ami et son épouse, qu'il fallait pour cela être scellé par le pouvoir de la prêtrise de Melchisédek dans un saint temple de Dieu. Il a demandé que j'accomplisse le scellement. Sa femme et lui voulaient que ce soit fait dès que possible. Et avec la période bien occupée de la conférence générale qui approchait, j'ai laissé le couple et son évêque, voire avec mon secrétaire, pour trouver la meilleure date. Imaginez ma surprise et ma joie quand le père m'a dit que le scellement était prévu pour le 3 avril. C'est le jour où, en 1836, Élie, le prophète enlevé, a été envoyé au temple de Kirtland pour donner le pouvoir de scellement à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Ces clés sont aujourd'hui dans l'Église et perdureront jusqu'à la fin des temps. C'est la même autorité divine que celle que le Seigneur a donnée à Pierre en faisant cette promesse. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Fermeture de la parenthèse. Le retour d'Élie a été une bénédiction pour tous ceux qui détiennent la prêtrise. Elder Harold Billy l'a énoncé clairement lors d'une conférence générale. Ouverture de la parenthèse. « Je détiens la prêtrise. Vous, mes frères, qui êtes ici, détenez la prêtrise. Nous avons reçu la prêtrise de Melchisédek, qui était détenue par Élie et par d'autres prophètes, ainsi que par Pierre, Jacques et Jean. Nous avons l'autorité de baptiser. Nous avons l'autorité d'imposer les mains pour le don du Saint-Esprit et d'ordonner d'autres frères et de faire toutes ces choses. Mais sans le pouvoir de scellement, nous ne pourrions rien faire, car ce que nous aurions fait n'aurait aucune validité. » Il poursuit. Les ordonnances supérieures, les bénédictions plus grandes qui sont essentielles à l'exaltation dans le royaume de Dieu, ne peuvent être obtenues que dans certains endroits. Aucun homme n'a le droit d'accomplir une ordonnance s'il n'a pas reçu l'autorité de le faire de la part de l'homme qui détient ses clés. Aucun homme sur la surface de la terre n'a le droit d'accomplir l'une de ces ordonnances de l'Évangile à moins que le président de l'Église, qui détient les clés, ne l'autorise. Il nous a donné l'autorité. Il a placé le pouvoir de scellement dans notre prêtrise, car il détient ses clés. Fermeture de la parenthèse. Le président Boyd K. Packer nous a assuré de la même chose en parlant du pouvoir de scellement. Cela me réconforte de savoir que ces paroles sont vraies, et cela réconfortera aussi la famille que je vais sceller le 3 avril. Ouverture de la parenthèse. Pierre devait détenir les clés. Pierre devait détenir le pouvoir de scellement pour lier ou sceller sur la terre ou délier sur la terre, et qu'il en soit de même dans les cieux. Ces clés appartiennent au président de l'Église, aux prophètes, voyants et révélateurs. Ce pouvoir sacré de scellement est dans l'Église maintenant. Rien n'est considéré avec plus de vénération par ceux qui comprennent la parole, portée de cette autorité. Rien n'est détenu plus soigneusement. Il y a relativement peu d'hommes qui détiennent ce pouvoir de scellement sur la terre, à une époque quelconque. Dans chaque temple, il y a des frères à qui a été donné le pouvoir de scellement. Personne ne peut le recevoir d'une autre personne que du prophète, voyant, révélateur et président de l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. Lors de sa venue, non seulement Élie a donné du pouvoir à la prêtrise, mais de plus, les cœurs devaient être tournés. Ouverture de la parenthèse. L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Élie, c'est que vous avez le pouvoir de détenir la clé de la révélation, des ordonnances, des oracles, des pouvoirs et des dotations de la plénitude de la prêtrise de Melchisédek et du royaume de Dieu sur la terre, et de recevoir, d'obtenir et d'accomplir toutes les ordonnances appartenant au royaume de Dieu pour tourner le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères, même ceux qui sont au ciel. Fermeture de la parenthèse. Mon ami et sa famille ont déjà eu ce sentiment d'avoir le cœur tourné vers un être cher. Vous l'avez peut-être ressenti pendant cette réunion. Comme moi, vous avez peut-être eu à l'esprit le visage de votre père ou de votre mère. Il a pu s'agir d'une sœur ou d'un frère, ou bien encore d'une fille ou d'un fils. Ils sont peut-être dans le monde des esprits ou sur un autre continent, mais cela vous a apporté de la joie de sentir que vos liens avec eux sont sûrs, parce que vous êtes ou pouvez être liés à eux par des ordonnances de la prêtrise que Dieu honorera. Les détenteurs de la prêtrise de Melchisédek, qui sont pères dans une famille scellée, ont été instruits sur ce qu'ils doivent faire. Il n'y a rien qui soit arrivé ou qui puisse arriver à votre famille d'aussi important que les bénédictions du scellement. Il n'y a rien de plus important que d'honorer les alliances conjugales et familiales que vous avez contractées ou contracterez dans les temples de Dieu. La manière de le faire est claire. Par votre obéissance et votre sacrifice, le Saint-Esprit de promesse doit sceller nos alliances du Temple afin qu'elles soient réalisées dans le monde à venir. Le président Harold Billy a expliqué ce que signifie être scellé par le Saint-Esprit de promesse en citant Elder Melvin J. Ballard. Parenthèse. Nous pouvons tromper les hommes, mais ne pouvons pas tromper le Saint-Esprit. Et nos bénédictions ne seront pas éternelles si elles ne sont pas scellées par le Saint-Esprit de promesse. C'est le Saint-Esprit qui lit les pensées et le cœur des hommes et qui donne son sceau d'approbation aux bénédictions qui ont été prononcées sur eux. Alors, elles font force de loi, elles sont efficaces et pleinement en vigueur. Quand Sœur Iring et moi-même avons été scellés dans le temple de Logan, je ne comprenais pas toute l'importance de cette promesse. J'essaye toujours de comprendre tout ce qu'elle signifie. Mais ma femme et moi avons décidé, dès le début de notre mariage, il y a près de 50 ans, d'inviter le plus possible le Saint-Esprit à se manifester dans notre vie et dans notre famille. Quand j'étais jeune père, scellé dans le temple et le cœur tourné vers ma femme et mes jeunes enfants, j'ai rencontré le président Joseph Fielding Smith pour la première fois. Dans la salle de conseil de la première présidence où j'avais été invité, j'ai reçu un témoignage absolument certain lorsque le président Harold Billy m'a demandé, en montrant le président Smith qui était assis à côté de lui, « Vous croyez que cet homme peut être prophète de Dieu ?» Le président Smith venait d'entrer dans la pièce et n'avait pas parlé. Je serai éternellement reconnaissant d'avoir pu répondre fermement. Oui, je le sais. Et aussi sûrement que je savais que le soleil brillait, je savais qu'il détenait le pouvoir de scellement de la prêtrise pour toute la terre. Pour ma femme et moi, cette expérience a donné à ses paroles un grand pouvoir quand le 6 avril 1972, lors d'une session de conférence, Joseph Fielding Smith a donné la recommandation suivante. C'est la volonté du Seigneur de fortifier et de protéger la cellule familiale Nous supplions les pères de prendre la place qui leur revient de droit à la tête de la maison. Nous demandons aux mères de soutenir leurs maris et d'être des lumières pour leurs enfants. Je vais vous suggérer 4 choses que vous pouvez faire en tant que père détenant la prêtrise pour édifier votre famille et la ramener en présence de notre Père Céleste et du Sauveur. Premièrement, acquérez et conservez le témoignage sûr que les clés de la prêtrise sont avec nous et que le président de l'Église les détient. Priez pour cela tous les jours. Avec la réponse, vous recevrez une détermination plus grande de diriger votre famille, plus d'espoir et un plus grand bonheur dans votre service. Vous serez plus joyeux et plus optimiste, ce qui sera une grande bénédiction pour votre femme et vos enfants. Le deuxième impératif est d'aimer votre femme. Il faudra de la foi et de l'humilité pour faire passer ses intérêts avant les vôtres dans les difficultés de la vie. Vous avez la responsabilité de pourvoir aux besoins de la famille et de veiller sur elle avec votre tout en servant les autres. À certains moments, cela peut consumer toute l'énergie et toute la force que vous avez. L'âge et la maladie peuvent augmenter les besoins de votre femme. Je vous promets que si vous choisissez même alors de faire passer son bonheur avant le vôtre, votre amour pour elle augmentera. Troisièmement, demandez à tous les membres de la famille de s'aimer. Le président Israel Benson a enseigné, dans un sens éternel, le salut est une affaire familiale. Les enfants ont besoin, plus que de toute autre chose, de savoir et de sentir qu'ils sont aimés, acceptés et appréciés. Ils ont besoin d'en avoir souvent l'assurance. Et évidemment, c'est le rôle que les parents doivent remplir. Et le plus souvent, c'est la mère qui peut le faire le mieux. Fermeture de parenthèse. Une autre source essentielle de ce sentiment d'être aimé vient de l'amour des autres enfants de la famille. Pour que les frères et sœurs prennent constamment soin les uns des autres, il faut des efforts incessants de la part des parents, ainsi que l'aide de Dieu. Vous savez que c'est vrai du fait des expériences que vous avez eues dans votre propre famille. Et cela est confirmé chaque fois que vous lisez le récit des conflits familiaux auxquels ont fait face Léhi et sa femme, Saria, dans le livre de Mormon. Leurs succès sont un guide pour nous. Ils ont enseigné l'évangile de Jésus-Christ d'une si bonne manière et avec tant de persévérance que des enfants et même des descendants de génération en génération ont eu le cœur adouci envers Dieu et les uns envers les autres. Par exemple, Néphi et d'autres ont écrit à des membres de leur famille qui avaient été leurs ennemis et se sont ouverts à eux. À certains moments, l'Esprit adoucit le cœur de milliers de personnes et a remplacé la haine par l'amour. Une manière dont vous pouvez reproduire les succès de Léhi est la façon dont vous dirigez les prières familiales et le temps passé en famille, par exemple les soirées familiales. Donnez aux enfants des occasions de faire la prière où ils peuvent prier pour les autres dans un cercle qui a besoin de bénédiction. Décelez rapidement les premiers signes de discorde et félicitez pour les actes de service désintéressés, particulièrement entre frères et sœurs. S'ils prient les uns pour les autres et se servent mutuellement, leur cœur s'adoucira et se retournera vers leurs frères et sœurs et vers leurs parents. La quatrième occasion de diriger vos enfants à la manière du Seigneur, c'est lorsque la discipline est nécessaire. Nous pouvons remplir notre obligation de corriger à la manière du Seigneur et de les diriger vers la vie éternelle. Vous vous souviendrez de ces paroles, mais vous n'avez peut-être pas vu leur puissance quand un détenteur de la prêtrise de Melchisédek prépare sa famille à vivre avec la même sociabilité qu'elle aura dans le royaume céleste. Aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et par l'amour sincère, par la bonté et la connaissance pure, qui épanouiront considérablement l'âme, sans hypocrisie et sans fausseté, réprimandant avec rigueur, en temps opportun, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et faisant preuve ensuite d'un redoublement d'amour envers celui que tu as réprimandé, de peur qu'il te considère comme son ennemi, afin qu'il sache que ta fidélité est plus forte que les liens de la mort. Ensuite vient une promesse de grande valeur pour nous, les pères en Sion. Le Saint-Esprit sera ton compagnon constant et ton sceptre, un sceptre immuable de justice et de vérité. Et ta domination sera une domination éternelle et sans moyen de contrainte, elle affluera vers toi pour toujours et à jamais. C'est pour nous un niveau d'exigence élevé. Mais lorsqu'avec foi, nous maîtrisons notre humeur et notre orgueil, le Saint-Esprit donne son approbation et les promesses et alliances sacrées deviennent sûres. Vous réussirez par votre foi. Que le Seigneur a renvoyé les clés de la prêtrise qui sont toujours avec nous, avec le lien sûr de l'amour de votre femme, avec l'aide du Seigneur pour tourner le cœur de vos enfants vers leurs frères et sœurs et vers leurs parents, et avec l'amour qui vous guidera pour corriger et exhorter d'une manière qui invite l'Esprit. Je sais que Jésus est le Christ et notre Sauveur. Je témoigne que le président Monson, que nous allons maintenant entendre, détient et exerce toutes les clés de la prêtrise sur terre aujourd'hui. Je l'aime et je le soutiens. Je vous aime et je prie pour vous, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le chœur de la prêtrise des instituts de l'Université de Salt Lake pour la musique qu'il a interprétée, ainsi que toutes les personnes qui ont aidé à préparer cette réunion. Nous aurons maintenant la bénédiction d'entendre notre prophète bien-aimé, le président Thomas S. Monson. Après son discours, le chœur clora cette réunion en chantant « Aux bergers, elles sont chères ». Ensuite, Elder Larry R. Lawrence, des 70, fera la prière de clôture.
My beloved brethren,
mes frères bien-aimés, quel plaisir d'être de nouveau avec vous. Chaque fois que j'assiste à la réunion générale de prêtrise, je repense aux enseignements de certains des plus nobles dirigeants de Dieu qui se sont exprimés lors des réunions générales de la prêtrise de l'Église. Nombreux sont allés à leur récompense éternelle et pourtant, par leur esprit brillant, la profondeur de leur âme et la chaleur de leur cœur, ils nous ont donné des directives inspirées. Ce soir, je vous parlerai de certains de leurs enseignements concernant la prêtrise. Joseph Smith, le prophète, a dit « La prêtrise est un principe éternel. Elle a existé avec Dieu de toute éternité et existera à toute éternité. Elle est sans commencement de jour ni fin d'année. » Fin de citation. Les enseignements de Wilford Woodruff nous apprennent que la sainte prêtrise est le canal par lequel Dieu communique et traite avec l'homme sur la terre. Et les messagers célestes qui ont visité la terre pour communiquer avec l'homme sont des hommes qui ont détenu et honoré la prêtrise tandis qu'ils étaient dans la chair. Et tout ce que Dieu a fait pour le salut de l'homme, depuis la venue de l'homme sur la terre jusqu'à la rédemption du monde, l'a été et le sera en vertu de la prêtrise éternelle. Fin de citation. Joseph Smith a ajouté, la prêtrise est la puissance de Dieu déléguée à l'homme, par laquelle celui-ci peut agir sur la terre pour le salut de la famille humaine, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et agir légitimement, ne s'attribuant pas cette autorité ni l'empruntant à des générations qui sont mortes et enterrées, mais étant une autorité donnée en ces jours où nous vivons, par le ministère d'anges et l'Esprit d'en haut, envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Fin de citation. Et pour finir, de John Taylor, qu'est-ce que la prêtrise? C'est le gouvernement de Dieu, que ce soit ici-bas ou dans les cieux, car c'est par ce pouvoir, ce moyen ou ce principe que tout y est maintenu et gouverné. Et c'est par ce pouvoir que toutes choses sont soutenues. Elle gouverne toutes choses. Elle dirige toutes choses. Elle soutient toutes choses. Et elle est concernée par toutes les choses qui se rapportent à Dieu et à la vérité. Comme nous sommes bénis d'être ici en ces derniers jours avec la prêtrise de Dieu sur terre, quel honneur de détenir cette prêtrise. La prêtrise n'est pas tant un don que la mission de servir, la bénédiction d'édifier et la possibilité de faire du bien aux autres. Ces possibilités s'accompagnent de responsabilités et de devoirs. J'aime et je chéris le noble mot « devoir » et tout ce qu'il implique. Dans une fonction ou une autre, dans un contexte ou un autre, cela fait 72 ans que j'assiste aux réunions de la prêtrise, depuis que j'ai été ordonné diacre à l'âge de 12 ans. Assurément, le temps passe. Le devoir suit à la même cadence. Le devoir ne s'estompe pas ni ne diminue. Les conflits catastrophiques vont et viennent, mais la guerre, dont le jeu est l'âme des hommes, continue inexorablement. La parole du Seigneur sonne comme une trompette à vos oreilles, aux miennes, et à celles de tous les détenteurs de la prêtrise de partout. Je cite, « C'est pourquoi chaque homme s'instruise en son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. » L'appel du devoir est adressé à Adam, Noé, Abraham, Moïse, Samuel, David. Il est adressé à Joseph Smith, le prophète, et à chacun de ses successeurs. L'appel du devoir a été adressé au jeune Néphi quand le Seigneur lui a commandé, par l'intermédiaire de son père, Léhi, de retourner à Jérusalem avec ses frères afin d'obtenir les plaques d'airain de Laban. Les frères de Néphi ont murmuré en disant que ce qui était exigé d'eux était dur. Quelle était la réponse de Néphi? Il a dit, je cite, « J'irai et je ferai la chose que le Seigneur a commandée, car je sais que le Seigneur ne donne pas de commandement aux enfants des hommes sans leur préparer la voie pour qu'ils puissent accomplir ce qu'il leur commande. » Quand ce même appel nous parviendra, à vous et moi, quelle sera notre réaction? Est-ce que nous murmurerons comme Laman et Lemuel et dirons que ce qui est exigé de nous est dur? Ou est-ce que chacun de nous dira comme Néphi, j'irai et je ferai? Serons-nous disposés à servir et à obéir? Parfois, la sagesse de Dieu paraît une folie ou juste trop difficile. Mais la plus grande leçon que nous puissions apprendre dans la condition mortelle, c'est que lorsque Dieu commande et que nous obéissons, nous avons toujours raison. Quand je pense au mot « devoir » et comment le fait de l'accomplir enrichit notre vie et celle d'autrui, je repense à ce qu'un poète et écrivain célèbre a écrit. Je dormais et je rêvais que la vie c'est la joie. Je me suis éveillé et j'ai vu que la vie, c'est le devoir. J'ai agi et voici, le devoir, c'est la joie. Robert Louis Stevenson l'a dit d'une autre façon, je cite, « Je sais ce qu'est le plaisir, car j'ai fait du bon travail. En accomplissant notre devoir et en exerçant notre prêtrise, nous trouverons la vraie joie. Nous connaîtrons la satisfaction du travail accompli. On nous a enseigné les devoirs spécifiques de la prêtrise que nous détenons, que ce soit la prêtrise d'Aaron ou la prêtrise de Melchizedek. Je vous exhorte à réfléchir à ces devoirs, puis à faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les accomplir. Pour cela, nous devons tous être dignes. Ayons des mains prêtes, des mains nettes, des mains bien disposées, afin de participer à donner à ce que notre Père Céleste voudrait que d'autres soient de lui. Si nous ne sommes pas dignes, il est possible de perdre le pouvoir de la prêtrise. Et si nous le perdons, nous aurons perdu l'essence de l'exaltation. Soyons dignes d'œuvrer. Harold Billy, l'un des grands pédagogues de l'Église, a dit, « Quand quelqu'un devient détenteur de la prêtrise, il agit pour le Seigneur. Il doit se considérer comme étant en mission pour lui. » Pendant la Deuxième Guerre mondiale, au début de l'année 1944, des marines de l'armée américaine ont eu une expérience impliquant la prêtrise, alors qu'ils étaient en train de prendre l'atoll de Kwajalein, dans les îles Marshall, dans l'océan Pacifique, à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï. Ce qui s'est alors passé a été rapporté par un correspondant, non membre de l'Église, qui travaillait pour un journal à Hawaï. Dans l'article de 1944 qu'il a écrit après l'expérience, il expliquait que d'autres correspondants et lui étaient dans la seconde vague d'assaut derrière les marines sur l'atoll de Kwajalein. Pendant leur progression, ils avaient remarqué un jeune militaire qui flottait sur le ventre, à l'évidence grièvement blessé. Les eaux peu profondes autour de lui étaient rouges de son sang. Puis ils ont remarqué un autre marine qui se dirigeait vers son camarade blessé. Lui aussi était blessé et son bras gauche pendait inerte le long de son corps. Il a soulevé la tête de celui qui flottait pour l'empêcher de se noyer. D'une voix paniquée, il a appelé au secours. Les correspondants ont regardé à nouveau le garçon qu'ils soutenaient et ont crié « Fiston, on ne peut plus rien faire pour ce garçon ». Alors a écrit le correspondant « J'ai vu une chose que je n'avais jamais vue auparavant. Ce garçon, lui-même grièvement blessé, s'est hissé jusqu'au rivage avec le corps apparemment sans vie de son compagnon d'armes. Il a posé sa tête sur son genou. Quel tableau incroyable. Deux jeunes garçons mortellement blessés, tous deux, des jeunes gens purs et merveilleux, même dans cette situation de désespoir. Et le garçon a incliné la tête au-dessus de celle de l'autre et a dit, « Je te commande, au nom de Jésus-Christ et par le pouvoir de la prêtrise, de rester en vie jusqu'à ce que je trouve une aide médicale. » Fin de citation. Le correspondant a terminé son article en disant, je cite, « Nous sommes tous trois, les deux marines et moi, ici à l'hôpital. Les médecins ne savent pas comment ils s'en sont sortis vivants, mais moi, je le sais. » Des miracles se trouvent partout où l'on comprend la prêtrise, où on l'honore et utilise bien son pouvoir et où l'on exerce la foi. Quand la foi remplace le doute, quand le service des intéressés élimine les efforts égoïstes, le pouvoir de Dieu réalise ses desseins. L'appel du devoir peut nous parvenir discrètement dans l'exécution des tâches que nous recevons comme détenteurs de la prêtrise. George Albert Smith, ce dirigeant discret mais efficace, a déclaré, je cite, « Votre premier devoir est d'apprendre la volonté du Seigneur, puis, par le pouvoir et la force de votre sainte prêtrise, de magnifier votre appel en présence de vos semblables, afin qu'ils vous suivent de bon cœur. » Fin de citation. Un appel au devoir de ce genre, beaucoup moins spectaculaire, mais qui a quand même permis de sauver une âme, s'est présenté à moi en 1950, alors que je venais d'être appelé comme évêque. En tant qu'évêque, mes responsabilités nombreuses et variées, et je faisais de mon mieux pour faire tout ce qui était attendu de moi. Les États-Unis étaient alors engagés dans une autre guerre. Comme beaucoup de nos membres étaient dans les forces armées, le siège de l'Église nous a donné la tâche à tous les évêques d'offrir à chaque militaire un abonnement au Church News et à l'Improvement Era, des publications de l'Église de l'époque. De plus, il a été demandé à chaque évêque d'écrire personnellement tous les mois une lettre à chacun des militaires de sa paroisse. Nous avions 23 hommes sur les drapeaux. Les collèges de prêtrise ont fait l'effort de réunir les fonds nécessaires pour les abonnements. Je me suis attelé à la tâche, au devoir même, d'écrire 23 lettres personnelles chaque mois. Après toutes ces années, j'ai encore des copies d'un grand nombre de mes lettres et des réponses que j'ai reçues. Les larmes me viennent vite aux yeux quand je les relis. C'est une joie de redécouvrir l'engagement d'un soldat à vivre l'Évangile, la décision d'un marin de tenir ses promesses envers sa famille. Un soir, j'ai tendu à une sœur de la paroisse la pile des 23 lettres du mois. Elle avait la tâche de les poster et de tenir à jour les adresses qui changeaient constamment. Elle a jeté un coup d'œil à l'une des enveloppes et en souriant a dit, « Frère, vous ne vous découragez jamais ? Encore une lettre pour Frère Bryson. C'est la 17e que vous lui envoyez sans réponse. » J'ai répondu, « Eh bien, peut-être c'est ce mois-ci. » Et il s'est avéré que c'était le bon mois. Pour la première fois, il a répondu à ma lettre. Sa réponse est inoubliable, un trésor. Il était basé dans une région lointaine, isolée, avec le mal du pays, seul. Il a écrit, « Cher évêque, je ne suis pas doué pour écrire des lettres. J'aurais déjà pu le lui dire quelques mois plus tôt. » Plus loin, il écrit, « Merci pour le Church News et les magazines, mais par-dessus tout, merci pour vos lettres personnelles. Une nouvelle page s'est tournée pour moi. J'ai été ordonné prêtre dans la prêtrise d'Aaron. Mon cœur déborde. Je suis un homme heureux. » Fin de citation. Frère Bryson ne pouvait être plus heureux que son évêque. J'avais appris l'application pratique de l'adage « Fais ton devoir, c'est le mieux. Laisse le reste à Dieu. » Des années plus tard, tandis que je visitais le pieu de Cottonwood, Salt Lake City, dont James C. Fast était le président, j'ai raconté cette histoire dans le but d'encourager les membres à être attentifs à nos militaires. Après la réunion, un beau jeune homme s'est avancé. Il a mis ma main dans la sienne et a demandé, « Frère Monson, vous souvenez-vous de moi ?» J'ai soudain compris qui il était. Je me suis exclamé, « Frère Bryson, comment allez-vous ? Que faites-vous dans l'église ?» Avec une chaleur et une fierté évidente, il a répondu, « Je vais bien. Je suis dans la présidence de mon collège d'anciens. Merci encore de vous être soucié de moi et pour l'aide personnelle que vous m'avez envoyée et que je chéris. » Fin de citation. Frère, le monde a besoin de notre aide. Faisons-nous tout ce que nous devons? Nous souvenons-nous des paroles de John Taylor? Si vous ne magnifiez pas vos appels, Dieu vous tiendra pour responsable des gens que vous auriez pu sauver si vous aviez fait votre devoir. Fin de citation. Il y a des pas à fermer, des mains à saisir, des esprits encouragés, des cœurs à inspirer et des âmes à sauver. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez la bénédiction d'être non pas des spectateurs, mais des acteurs sur la scène du service de la prêtrise. Écoutons le rappel et mouvement que l'on trouve dans l'épître de Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Apprenons notre devoir et réfléchissons-y. Soyons désireux et dignes de servir. Ce faisant, suivons les traces du Maître. En marchant sur le chemin parcouru par Jésus, nous découvrirons, vous et moi, qu'il est plus que l'enfant de Bethléem, plus que le fils du charpentier, plus que le plus grand pédagogue qui ait jamais vécu. Nous saurons qu'il est le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Rédempteur. Quand l'appel du devoir lui a été dressé, il a répondu, « Père, que ta volonté soit faite et que la gloire t'appartienne à jamais. » Puissions-nous tous faire de même. C'est là ma prière, en son saint nom, le nom de Jésus-Christ le Seigneur. Amen.
Father in heaven,
notre Père céleste, nous sommes tellement reconnaissants pour cette occasion que nous avons eue de faire partie de cette réunion de détenteurs de prêtrises à travers le monde. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète et pour l'exemple qu'il représente pour chacun d'entre nous et pour remplir nos devoirs dans la prêtrise. Bénis-le, lui et son épouse, sa merveilleuse épouse. Nous sommes reconnaissants pour les conseillers de la première présidence, pour le collège des 12 apôtres, pour les grandes instructions que nous avons reçues et pour les messages que nous avons reçus à travers cette conférence. Et nous prions pour que ces choses trouvent un chemin vers notre cœur. Nous te remercions pour le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. S'il te plaît, bénis-nous alors que nous quittons cette réunion, que nous puissions faire en sorte d'être résolus à faire ce qu'il faut pour magnifier notre prêtrise à travers nos appels, pour bénir, pour servir les gens à travers le monde. Nous prions, Père Céleste, que nous puissions être en mesure de nous investir avec passion dans cet effort formidable de salut pour ceux qui se sont éloignés. Et nous prions pour toutes ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.